Par la fameuse bande à Fifi, le personnage de Philippe Lachaud ne se résout pas à présenter ses parents à sa future femme. Il faut dire que sa mère, jouée par Ariel Dombal, est une actrice de films de charme et que son père, joué par Gérard Jugnot, est un escroc à la petite semaine. Nous avons rencontré ce couple de cinéma atypique.
Ariel, quand Philippe Lachaud vous a contacté pour jouer notamment une actrice de charme, vous avez immédiatement dit oui ?
Non, j'ai pas immédiatement dit oui et je me suis laissée convaincre par mon agent. Et puis après, j'ai lu le scénario et après, on m'a dit que mon partenaire et mari serait Gérard.
Et, elle est folle de moi.
Et voilà, et alors tout le package m'a paru... très amusant. Mais je me suis dit oui, allons-y.
Et vous, Gérard, pourquoi est-ce que vous pensez que Philippe Lachaud vous ait choisi pour être son père de cinéma?
Parce que je suis son vrai père.
C'est ça.
Biologique. Non, moi, Fifi, c'est devenu un... Enfin, je suis un peu leur parrain, parce que j'étais dans le premier. Je les ai un peu aidés au début, et puis maintenant, ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'étais très fier, parce que j'ai raté le premier, puisque je devais être son beau-père. Et puis, j'étais pas libre, donc ils ont choisi... c'était très bien Didier. Et donc là, le fait que je revienne dans la bande, dans la bouche, ça m'a ravi. J'étais très content, plus que ce soit son vrai père. Parce que j'ai un sentiment un peu quasi filial avec tous ces mômes.
Oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser à la symbolique du passage de relais un petit peu.
Oui, c'est vrai qu'ils sont, ils ont été aussi biberonnés avec le Splendide, avec d'autres groupes comme ça. Donc c'est assez touchant qu'ils nous fassent appel à nous encore, que ce soit Christian dans Babysitting 2 ou moi ou Didier. Donc c'est ça qui est formidable chez ces jeunes, c'est que...
ils ont des grands modèles et ils les prennent.
Ils les prennent, oui. On n'est pas des ringards pour eux, on n'est pas mis au rancard ni en retraite, et donc ça c'est très agréable.
Et justement, comment est-ce que vous évoluez, vous, tous les deux, dans cette bande, dans la bande à Fifi?
On se pose pas la question, vous savez, tous les films sont des collectivités, on entre dans un petit cosmos qui a ses règles, son genre, son style, etc. Et ce qu'il y a de formidable avec la bande à Fifi, c'est que c'est une vraie bande, et ça c'est assez rare. C'est comme dit Gérard, à part le Splendide dans la comédie en France, on a il y a eu Molière, mais après
il y a toujours des bandes, il y a toujours des comme les Nuls, comme les Inconnus,
voilà, des mini-bandes, mais le Splendide c'était aussi des acteurs réalisateurs, c'était une entité.
Moi qui emploie l'imparfait,
c'était parce que vous êtes un peu dispersés. Vous faites tous vos propres films. Et d'ailleurs, j'ai été dirigée, par Clavier, puis j'ai joué avec Thierry Lhermitte, et puis avec toi. Mais vous n'étiez pas ensemble quand
non, c'est vrai qu'ils continuent à être ensemble. Ils font les films des uns et des autres. Non, c'est tout à fait formidable, je trouve. Ça fait vraiment plaisir. Et puis surtout, c'est très joyeux, bienveillant et très travaillé. Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est que c'est des bosseurs, hein, que c'est pas des feignasses qui croient que ça se fait comme ça.
Voilà. Et tout est très, très orchestré au millimètre. Et les choses sont aussi des cascades techniques et tout ça, très, très maîtrisées. C'est pas facile du tout, tous ces trucs-là.
Mais justement, comment est-ce qu'on fabrique un couple de cinéma? Quelle histoire est-ce qu'on imagine?
Il s'est fait spontanément, parce qu'on a juste touché, je vous dis, on est les Bonnie and Clyde de la loose. Et alors, on s'aime, et puis on se bagarre, et puis on a mille choses à se reprocher, mais tout ça, c'est de l'écume.
Non, mais en plus, Ariette, c'est une super actrice, et en plus... suffisamment perché pour oser faire plein de choses, et c'est ça qui est très amusant. Je la connais bien maintenant grâce aux grosses têtes.
Oui, on est partenaires aux grosses têtes.
Je l'entends, on rigole beaucoup parce qu'elle peut dire n'importe quoi avec un aplomb et une vérité et un charme fou. Donc c'est vrai que j'étais absolument ravi, puis surtout pour le rôle qui était quand même un peu limite, puisque c'est une ex, enfin elle continue encore un peu des films un peu rose, même rose foncé,
Oui.
Mais il fallait trouver quelqu'un qui est justement de la classe, de la fantaisie, pour pas que ça soit quelque chose de glauque, de grossier ou de vulgaire. Et là, elle fait tout passer. Elle a cette hauteur d'esprit. Cette folie douce que je trouve tout à fait remarquable et très agréable. Et en plus, c'est quelqu'un de tellement gentil. C'est très rare dans ce métier, les gens bienveillants et gentils.
Mais avec Gérard, on est déjà aux grosses têtes, on se connaît bizarrement, comme à l'école. C'est des camarades, on est tout le temps en train de se fighter, parce que c'est le principe. Mais je sais quelle finesse. L'image de Gérard est une chose, et puis l'être qu'est Gérard est une autre chose. Et c'est quelqu'un de tellement cultivé, qui s'intéresse tellement aux autres, qui s'intéresse aux pièces, qui lit de la littérature, qui connaît l'histoire. Enfin voilà, c'est pas le gros gagman. Voilà. Et donc,
ce que tu dis, c'est juste les grossesses, c'est l'école. C'est l'école avec que des cancres et des dissipés.
Voilà.
Mais à l'école, même si tu es dissipé, tu peux être travailleur.
Exactement. Et donc, quand on parle des grossesses, mais quand Gérard est là, on sait que, oh là là, on a intérêt à être rapide, parce qu'en histoire et en littérature et au cinéma, il est assez incollable.
Elle répond très bien, mais à des questions qu'on ne pose pas. Elle a quand même l'art de récupérer un truc en donnant
c'est
une
vrai,
réponse.
C'est vrai.
Questions qu'on n'a pas posées.
Je dois avouer modestement. Mais donc quand Fifi m'a dit mais oui, si vous allez être un couple, ça va marcher. En effet, ça m'a paru totalement évident.
Parce qu'en plus, dans le film, c'est les deux personnages qui ont un petit peu de sensibilité, qui apportent une touche d'humanité sur la fin, que je trouve très, très jolie, qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer tous les deux.
Les
parents blessés, quand même, parce que c'est terrible. Un fils qui a honte de ses parents.
On est des parias. La honte de nous.
La honte,
on est rejetés.
Ils devraient être fiers d'avoir un père escroc.
Voilà. Et une mère dans le X, il devrait l'assumer, mais non.
Et vous connaissiez, comme vous le dites, avant de tourner ensemble, mais est-ce que l'un et l'autre, vous avez découvert quelque chose d'insoupçonné sur le tournage, pendant le processus de...
Toujours, on découvre la subtilité, la finesse de jeu, Et puis Gérard, évidemment, dirige des films. Et moi aussi. Donc, on est des êtres qui observons. L'un comme l'autre, on n'est pas dans notre caravane, dans notre tour d'ivoire.
Mais non, mais ce qui est formidable chez Ariel, c'est qu'elle a fait des tas de films très underground, des très, très bizarres, très barrés, mais en même temps aussi des grandes comédies. Oui. Et là, je trouve c'est formidable. Je trouve ça épatant, comme Nathalie Baye, qui a fait beaucoup de films très sérieux, césarisables et tout, d'arriver à plonger dans un univers de comédie. C'est très. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est bien quand ces barrières tombent.
Voilà, c'est ça.
Et l'un et l'autre, de manière générale, vous êtes davantage attiré par les rôles de personnages roublards ou blindés de défauts, ou au contraire des personnages qui font qu'on a envie de vous prendre dans nos bras quand on vous croise dans la rue?
Gérard, les gens ont envie de le prendre dans les bras, beaucoup. et notamment depuis Les Choristes. Ça a été aussi une chose très marquante. Parce que, en effet, quand on a... Il faut être très fin et très intelligent pour être un grand acteur comique. Et il y a toujours, et il faut surtout avoir été au fond de la tragédie pour être bon. Et Gérard a ça.
Parce qu'il n'y a pas de comédie sans drame. La comédie, elle repose sur le fait qu'il y a du drame. Le rire, c'est une sorte de libération, de disjoncteur à la folie, au malheur du monde. Donc, évidemment, on touche très fort le drame. Mais pour revenir à votre question, moi, j'ai joué beaucoup de couillons, beaucoup d'idiots. Et comme disait, c'est Bourville, il faut bien qu'il y ait des idiots pour jouer les imbéciles. Mais c'est pas vrai. Il faut être très. C'est un truc quand même de. Il faut de la distance. Et moi, j'ai joué beaucoup de couillons et j'essaye de les défendre comme un avocat. Parce qu'on a, et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. J'essaye de mettre de la compassion, quoi. Enfin...
Voilà, mais les gens très drôles sont en général de grands tragédiens, des héros tragiques. D'ailleurs, même Coluche, Les gens étaient tout étonnés de le voir jouer Tchao Pantin, mais derrière cette finesse de jeu et de la drôlerie, qui est une chose très subtile à faire, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de...
Oui, puis il y a beaucoup de blessures. Enfin, j'ai bien, très bien connu Coluche, il y avait beaucoup de blessures. C'était quelqu'un de très tourmenté, enfin, très... Et comme de Funès. Ou... Mais c'est vrai que de Funès, moi, je regrette un peu qu'il ait jamais joué comme Bourvil le faisait, ou comme Coluche a pu le faire, oui. ou de faire les deux rôles. Il n'a jamais voulu se dévoiler. Chris Clavier est un peu comme ça aussi.
Vous pensez que les comiques, de manière générale...
Il n'aime pas montrer ses failles, et c'est, je trouve ça dommage, parce que Christian, il a fait de temps en temps des choses comme ça, où il était plus lui-même, plus vulnérable, et c'était très intéressant. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent.
Oui, les comiques, de manière générale, ont une facette sombre. Vous pensez que c'est...
Mais oui, regardez, oui, ben, Pierre Palma, tous ces gens...
Il y a quelque chose d'un petit peu cassé, d'inquiet, en tout cas. Et moi, je me souviens d'une chose très jolie qui m'avait fait, Maurice Drouon, que j'avais rencontré à Kiev, t'imagines, avant la fin de la guerre, qui m'avait observé, et puis c'était à côté Sacha Guitry, tu vois, et qui m'avait dit cette phrase magnifique qu'il avait dû dire à d'autres comiques, et dit, vous n'avez aucune raison d'être inquiet, mais c'est votre inquiétude qui fait ce que vous êtes. Et je trouve que c'est très très joli comme phrase, et ça définit beaucoup la comédie.
Oui, merci beaucoup.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois, et comme dernier souvenir, je veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher ce que je ne t'ai pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages.
Bonjour à toutes et à tous. Concilier carrière de haut niveau et projet de maternité, un véritable défi pour de nombreuses sportives. Médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'escrimeuse Cécilia Berder est devenue maman en mai 2022. Un projet de maternité décalé d'un an en raison du report des Jeux Olympiques.
C'était un projet déjà à deux, un projet presque, je pourrais dire, viscéral. On avait vraiment envie de fonder une famille avec mon conjoint et c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur, évidemment. Il y a eu le report des Jeux déjà, Tokyo 2020 qui s'est transformé en Tokyo 2021. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très compréhensif, qui comprend ce que c'est le sport de haut niveau, qui est au quotidien aussi avec moi. Donc du coup, qui a compris que notre projet familial allait aussi lui être reporté d'un an. Mais voilà, c'était voilà, comme je dis, viscéral. On avait vraiment envie de ça et ça se co-construit. Faut de l'aide aussi et ça se réfléchit dans une carrière sportive, ça c'est sûr. Il y a la loi de la science et de la nature humaine qui fait qu'on choisit pas forcément quand est-ce qu'on tombe enceinte. Donc déjà, c'est un premier paramètre. Nous, on a eu un petit peu de chance parce que c'est arrivé assez vite. Et puis après, il y a un calendrier sportif. C'est sûr que être enceinte, avoir une grossesse, avoir un enfant, ça change toutes les priorités, dans le bon sens du terme. Et ça te fait finalement une saison où tu ne peux pas partir en compétition, tu ne peux pas faire de Coupe du Monde. Donc du coup, tu n'as pas de points au classement mondial. Donc du coup, tu perds aussi ta place dans l'équipe. Enfin, du coup, tous les dés sont rebattus. Mais en vrai, dans cette aventure, t'as quelqu'un chez toi qui est nouveau, t'as un petit bébé qui est là et qui te regarde tous les jours et que toi tu peux admirer tous les jours grandir. Donc voilà, tous les sens des priorités est remis en question et pour la bonne cause. Donc ça vaut le coup. Ouais.
Mais les sportives sont-elles bien accompagnées dans leur projet? Il y a encore quelques années, la maternité des sportives de haut niveau était un sujet tabou, mais les mentalités évoluent, constate Cécilia Berder.
J'ai eu de la chance parce que finalement, quand je suis arrivée, déjà le ministère des Sports s'est vraiment emparé du sujet avec un livret qu'ils ont sorti pour toutes les bonnes pratiques. J'ai aussi la chance d'être suivie par une gynécologue qui est vraiment experte dans le domaine puisqu'elle travaille à l'INSEP, elle sait exactement ce que c'est les grossesses, elle s'appelle Carole Maître et elle est vraiment aujourd'hui la référence en termes de grossesse et de sport de haut niveau, donc c'était quand même une chance de pouvoir être suivie avec elle. Et puis surtout aussi ma préparatrice physique qui s'appelle Anne-Laure Morini, qui elle a eu deux grossesses et qui est une férue du sport et qui est vraiment experte dans son domaine d'expertise de la préparation physique et qui du coup tous les jours enceinte, je me suis informée tous les jours jusqu'au terme, m'a aidée, m'a accompagnée, m'a pas vue comme une personne ni fragile ni blessée, juste comme une personne enceinte qui avait un projet sportif. Et j'avais aussi ma prof de piscine qui était constamment là, Jacqueline Delors, et qui m'aidait dans l'eau et qui voilà, même pareil que les deux autres personnes qui alliaient une certaine compréhension parce qu'elle avait déjà eu des enfants et puis qui me rentrait vraiment dedans, Ali avait une vraie tendresse et une vraie bienveillance, mais qui me challengeait comme les sportifs de haut niveau aiment l'être. Et ça, de voir que j'étais pas en sucre, voir dans leurs yeux que je pouvais chercher de la performance tout en étant avoir de la vie qui grandissait dans mon ventre, c'était jouissif parce que vraiment j'avais compris mon projet et ça se fait pas tout seul. C'était souvent ça qu'elle me disait aussi ma gynéco, voilà, c'est beaucoup de bon sens parce que j'ai la chance de connaître mon corps, il y a des choses que je pouvais plus faire, des bonds, des sauts, des cardio à haute intensité, je pouvais plus le faire, mais on trouvait d'autres paliers, dans l'eau on peut faire beaucoup de choses, des choses à poids de corps on peut faire énormément, et puis mes maîtres d'armes aussi avaient vraiment compris, je continue à prendre des leçons, alors ils avaient souvent un petit peu de mal à me toucher parce que ils voyaient bien que mon gros ventre qui poussait et que c'était pas facile pour eux d'avoir une femme enceinte face à eux, c'est pas commun quand même, mais ils étaient là à m'écouter, à comprendre où je voulais aller et ça se co-construit, c'est sûr.
La sabreuse du cercle d'escrime orléanais a en effet continué de s'entraîner pendant toute sa grossesse. Elle ne s'imaginait pas faire autrement.
Étonnamment, c'était là où je me sentais le mieux. Quand j'étais chez moi, j'ai eu une grossesse quand même assez bonne et facile, mais j'avais beaucoup de nausées et de remontées acides sur cette grossesse. Donc du coup, c'était quand j'étais à l'entraînement que je me sentais finalement le mieux, parce que je mettais mon corps en mouvement avec des exercices adaptés, mais j'étais vraiment dans l'action. J'avais pas le temps de me reposer trop et de me concentrer sur mes nausées, j'étais vraiment concentrée sur autre chose. Et surtout, je voyais mon corps qui évoluait, mais qui gardait en tonicité, je m'améliorais en souplesse. Le haut du corps, par exemple, j'ai eu des épaules qui étaient beaucoup plus musclées qu'avant la grossesse. Et ça, c'est quelque chose que je continue à conserver. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels j'ai progressé. Alors évidemment, vous prenez du poids, vous perdez en explosivité, vous perdez en tonus, vous perdez en endurance, mais j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en musculature du haut du corps, j'ai pu soigner mes bobos du quotidien. C'est pas anodin aussi, parce que ça faisait plus de 20 ans que je suis en équipe de France, votre corps il est un peu usé, donc du coup ça permet de faire un petit reset sur des hanches, des genoux, des articulations qui sont un peu fragilisées. Donc voilà, c'était vraiment un temps où tu sens que la vie rentre dans ton corps, et c'est pas anodin quoi. Franchement, d'avoir quelque chose qui bouge dans ton ventre, c'est quelque chose de particulier, il faut en prendre soin, c'est tellement précieux. Et en même temps, voilà, chercher la performance, voilà, c'était constamment cet équilibre-là qui était fou à trouver, et ça m'a permis d'encore mieux connaître mon corps, et c'était très riche. Ouais.
En revanche, pas question pour elle de continuer les compétitions.
Au bout de 3 mois de grossesse, j'ai fait ma dernière compétition et j'ai dit c'est plus ma place. Parce que quand vous êtes en compétition, il faut vraiment avoir cet esprit très animal, très félin. Il faut donner sa vie, faut pas avoir peur de transpirer, de cracher ses poumons, de saigner, parce que c'est un sport de combat. Et vraiment, au bout de 3 mois, même un peu avant, j'aurais dit voilà, j'ai ma dernière compétition à 3 mois, j'ai dit c'est plus ma place. Voilà, je veux plus être là. J'ai quelque chose à protéger dans mon ventre et je ne supporterai pas avoir des coups. Par contre, au niveau de l'entraînement, comme moi, j'étais vraiment maître de mes entraînements, j'ai continué jusqu'au bout. J'ai pris la leçon le 3 mai avec mon entraîneur, et le 3 mai au soir j'étais à la maternité pour accoucher, donc j'ai accouché le 4 mai ou le lendemain, et donc je suis vraiment entraînée jusqu'au bout, et c'était très bien. Je suis vraiment contente de ça, parce que déjà la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est très bien passé, et c'est, je pense aussi, parce que j'ai pu m'entraîner et que j'ai pu être suivie, accompagnée, que les gens m'ont conseillé, on me disait c'est bon, ce que tu fais c'est bien, tu réfléchis à chaque fois, voilà, à ce que tu vas faire, à ce que tu peux faire, à ce que tu ne peux plus faire, et en fait grâce à ça, je pense qu'aussi ça s'est bien passé. Donc vraiment, il faut bien avoir dans l'idée en tête qu'une femme enceinte n'est pas en sucre, et qu'elle a intérêt d'être accompagnée, parce qu'on ne connaît pas. Hein. Franchement, tu as la chance d'être quelques fois enceinte dans ta vie, mais quand tu es accompagnée par des professionnels et que tu bouges, parce que vraiment, c'est moi, là où j'étais le mieux, c'est quand je bougeais mon corps, et ben c'était, voilà, ça m'a vraiment fait du bien.
Et si Cécilia Berder a pu mener à bien son projet de maternité, c'est aussi parce qu'avant elle, certaines sportives ont montré la voie, explique-t-elle.
Mélina Robert-Michon, une Charline Picon, une Cléopâtre Darleux, la basketteuse récemment qui à Tokyo était enceinte. Il y a des exemples. En fait, voilà, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Et moi, si j'ai cru que c'était possible, c'est parce que j'ai vu des filles faire et des filles revenir et réussir à conjuguer tout ça. Donc, en fait, ce qui est assez agréable, c'est de voir les mentalités qui évoluent. Mais même que ce soit des femmes ou des hommes, mes collègues féminines disent ah ouais, c'est possible, mais ça va. Plein de questions. C'est hyper intéressant de pouvoir changer avec elles, même qui ont 18-20 ans, c'est peut-être pas leur projet actuel, mais dans leur tête, ça fait quand même un petit bout de chemin. Et puis, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est peut-être aussi ces sportifs aujourd'hui, c'est peut-être les futurs entraîneurs. Et aujourd'hui, ils me voyaient à l'entraînement tous les jours, en séance de muscu tous les jours. Et en fait, peut-être que dans 5-10 ans, ce sera eux à la tête de l'équipe de France. Et ils diront, en fait, c'est possible. Moi, j'ai déjà vu des athlètes qui étaient enceintes avec un gros bide. Et en fait, elles sont pas en sucre. Hein. Puis tout ce qu'elle a fait, l'autre, on voit bien qu'elles sont pas en sucre. Et donc, du coup, d'une certaine façon, quand on montre des exemples, on voit que ça évolue, et les gens, ça fait leur petit bout de chemin, et ils se rendent compte que c'est possible, et du coup, pour le sport de haut niveau, c'est très bien. Je pense que ça, cette révolution, elle s'est faite dans les autres métiers, et aujourd'hui, ça arrive aussi dans le sport. Voilà, une femme enceinte n'est pas blessée ou n'est pas malade, juste c'est une étape de vie qui est importante, et plus on en verra, plus on se rendra compte que c'est possible.
Les sportives sont mieux accompagnées, oui, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et Cécilia Berder confie par exemple que le retour à l'entraînement et à la compétition n'a pas été facile à vivre.
Non, c'est dur. C'est dur parce que, alors déjà au début, quand tu as ton quotidien qui est bouleversé par la plus belle des choses qui peut arriver dans une vie, j'ai repris par des exercices de gainage, du yoga, et quelque chose, un exercice que tu pouvais tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là au bout de 10 secondes, t'es essoufflé, t'as mal partout, et tu te dis, ok, 10 secondes, c'est quand même chaud, quoi. De tenir que 10 secondes et encore, et 10 secondes, tu souffres. Et en fait, faut faire preuve d'indulgence, de patience, d'écoute. Et c'est des choses que, on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans notre quotidien, qu'on soit sportif de haut niveau ou pas. Un peu d'indulgence envers soi, ça fait du bien aussi. Et c'est surtout que, évidemment, on est dans un sport très concurrentiel et tu retrouves le sport de haut niveau, tu retrouves la compétition, tu retrouves tes adversaires. Et évidemment, elles n'ont pas attendu, elles n'ont pas eu un début entre temps, donc quand tu reviens, tu prends des caramels, quoi. Tu prends des shoots, t'es plus molle, t'es plus lente. Quand tu rentres chez toi, tu peux pas faire les mêmes choses que tu faisais avant en termes de récupération, mais pour la bonne cause, parce que je vous assure que avoir un sourire de ma fille qui est là, qui prend des caramels à l'entraînement, elle le soir quand je rentre, elle me fait les mêmes sourires et on a le droit de jouer exactement de la même façon. Bah finalement, c'est une autre façon de récupérer. C'est différent. Avant, j'allais chez le kiné, pour faire mes étirements, mon yoga, dormir davantage, c'est sûr. Mais voilà, c'est la récupération, elle est plus active et tout ça, c'est très bien. Mais c'est vraiment, je me concentre juste sur ma vie professionnelle et tout est différent parce que ben votre corps est différent, vos adversaires sont différents, vos collègues d'entraînement sont différents, vos entraîneurs ils vous regardent plus pareil. Les gens qui font même pas votre discipline, bah, ils sont aussi un peu curieux, voilà, ils vont tous regarder un peu, bah, elle en est où Berder, qu'est-ce qu'elle fait, ah, elle a perdu du poids, non, ah, elle est comme ça, ah, mais oh là là, est-ce qu'elle va réussir? Ils ont tous leurs commentaires à faire parce que ça reste un projet un petit peu différent. C'est pas, on n'est pas habitué à voir une femme qui a un bébé et qui revient. Ça commence, hein, honnêtement, il y en a de plus en plus. Il y a une autre escrimeuse qui est aussi comme moi, il y a du judoka, évidemment, Clarissa Kbeninou qui est dans le même cas que moi. Mais forcément, les gens ont envie de regarder, les gens ont envie de faire un commentaire, les gens ont envie d'avoir un avis, les gens ont envie en compétition, bah, ce serait quand même cool de la battre parce que avant, voilà, elle était classée, je sais pas combien. Donc, du coup, c'est ça qui est différent. C'est juste que tu reviens après un an, où t'as pas été dans la cage au lion. Et là, boum, tu retournes dans la cage au lion. Bah, les lions, ils ont envie de te manger. Et toi, bah, retrouver ses repères dans cette cage, bah, ouais, en fait, ça prend un peu de temps. Et ça aussi, il faut que je l'accepte, et que je retrouve l'énergie parce que c'est vraiment aussi ça qui est important, c'est cette énergie animale qu'on n'a plus développée pendant un an. J'étais tellement concentrée sur que ma fille aille bien, et je le suis encore, qu'aujourd'hui, voilà, c'est cette énergie qu'il faut encore décupler en compétition pour avoir cet esprit, ouais, tueur presque, parce que ça reste du sport de haut niveau. Et voilà, c'est juste, j'ai découvert un monde de douceur, de bienveillance avec ma famille, et à côté, bah, faut quand même garder cet esprit très animal, quoi.
Et il a fallu s'habituer à un corps qui avait changé, mais c'est aussi donc avec un état d'esprit différent que Cécilia Berder a repris le chemin de l'entraînement.
Mais tout est différent. C'est aujourd'hui, je vois les gens, que ce soit dans le monde du sport ou autre, se plaindre beaucoup. Ça a forcément été le cas avant, mais tout est différent. Le sens des priorités, perdre un match, tu relativises plus vite, c'est sûr, quoi. Être fatigué, des fois tu peux t'apitoyer sur ton sort. Non, en fait, non. Si je suis fatigué, en fait, j'ai quelqu'un qui est là, qui attend de pouvoir manger, de pouvoir jouer, de pouvoir être propre, de pouvoir être changé, de pouvoir bien dormir. Elle compte sur moi. Et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un a besoin de moi aussi vitalement. Et tout change, en fait, du coup, le sens des priorités. Et je trouve ça exceptionnel. C'est ma meilleure partenaire que je pouvais avoir dans une équipe, quoi. Et surtout qu'on le fait à deux. Et je ne pourrais pas le faire toute seule. Mon conjoint, il est là au quotidien. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Et à trois, voilà, c'est moi qui aime la compétition par équipe. Voilà, j'ai la meilleure équipe possible pour avancer dans la vie. Et c'est la plus belle, c'est même pas une compétition, mais en tout cas, c'est les plus beaux événements qui peuvent arriver, quoi. Tout prend une saveur différente. Des fois, tu te dis, on se bat, on se prend la tête pour se qualifier à X, Y, Z compétition. En fait, aussi, des fois, des choses toutes simples. Je vais pouvoir être complètement ennuyé de dire ça, mais des choses, voilà, juste de marcher, de prendre le temps, main dans la main, être tranquillement. Voilà, c'est prendre le temps de ça. Parce que les choses font que des fois, ça va trop vite et c'est important de prendre le temps de respirer.
Mère de famille, journaliste et sportive de haut niveau, la sabreuse a dû trouver une nouvelle organisation pour concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Ouais, c'est beaucoup d'adaptation, c'est sûr, surtout les déplacements. Alors j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui des entraîneurs qui comprennent. J'ai déjà refusé deux stages, d'une semaine où on va partir très loin. Et moi, j'essaie de trouver d'autres chemins pour pas aller à ces stages-là, parce que en sachant qu'évidemment, bah, je perds aussi des moments importants de cohésion de groupe et d'adversité, ou voir rencontrer d'autres adversaires. Mais moi, je fais le choix de rester chez moi parce que c'est important, et l'entraîneur aujourd'hui le comprend, mais parce que c'est à moi d'assurer sur les compétitions. Et voilà, c'est une fois encore, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, bah c'est de rester dans ma famille là. Ok, là cette compétition, elle est indispensable pour aller se qualifier là, donc bah j'y vais. Et voilà, c'est des arrangements qu'on trouve un petit peu chaque jour, hein. qui c'est qui va chercher sa fille à la nounou, qui c'est qui la dépose, bah moi j'ai une grosse séance ce jour-là, est-ce que tu peux, parce que je vais plus tard, bah boum, le conjoint qui s'adapte, enfin, c'est des adaptations au jour le jour, et c'est pour le mieux, donc voilà, ça se fait, c'est juste que ça demande de l'organisation, tous les soirs, toutes les semaines, on se calme, on voit nos agendas, et les entraîneurs sont compréhensifs parce qu'ils ont aussi des enfants, et que depuis le début, j'ai pas menti en fait, j'ai dit voilà, ma priorité c'est ça. Numéro uno, c'est ma famille. Et après, évidemment, numéro deux, c'est le projet sportif, puisqu'il est grand sur ce projet. Mais voilà, j'ai pas menti dès le début.
Et Cécilia Berder note que le regard des autres sur elle a changé depuis son retour à la compétition en tant que maman désormais.
Ah ben oui, c'était dingue. Alors déjà, ça crée beaucoup de joie, puisque sur les quelques compétitions, j'ai amené ma fille sur les déplacements avec mon conjoint qui était là. Et du coup, bah, les filles, toutes les adversaires voulaient avoir mon bébé dans les bras. C'est quand même un peu particulier. Et je leur montrais ma fille avec beaucoup de fierté, c'est évident. Mais c'est juste des filles avec qui tu vas te cogner sur la tête et deux minutes après, elles veulent porter la chose que tu as de plus précieux au monde. Et tu te dis, c'est fou comment un petit être arrive à donner aussi vite de la douceur, de la tendresse, de l'amour à nous qui étions en train de nous taper dessus deux minutes avant, quoi. Et donc ça, c'est chouette. Et après, ça change le regard de tout le monde, les arbitres, les entraîneurs, les athlètes. Ils savent très bien que ils te regardent vraiment et tu te sens comme un bout de viande regardé. Est-ce qu'il est gras? Est-ce qu'il n'est pas gras? Est-ce qu'elle est affûtée? Est-ce qu'elle n'est pas affûtée? Est-ce qu'elle va aussi vite ou est-ce qu'elle va moins vite?
Et y a-t-il encore des axes sur lesquels progresser pour accompagner les projets de maternité des sportifs de haut niveau? Cécilia Berder répond.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même d'être très bien suivie, que ce soit avant, pendant, après. Aujourd'hui, le plus difficile, je pense que c'est le retour à la compétition de haut niveau. Parce que tout est différent et c'est sûr que même sur l'aspect mental, il faut vraiment être accompagné parce que tu quittes avant d'être enceinte. Moi, imaginons, j'étais à Tokyo aux Jeux Olympiques et quand tu reviens, tu repars sur les toutes premières étapes comme quand t'avais 15-16 ans et c'est pas facile. Et en fait, ce des changements là du divers, il est hyper constructif et c'est intéressant d'être accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on doit pas laisser de côté parce que voilà, la préparation mentale c'est tout aussi importante que revenir en forme physiquement. Ça doit être très fort physiquement. Bah, cette cage au lion, faut de nouveau l'appréhender, savoir quel univers, et puis les choses ont changé, ça peut paraître anodin, mais les arbitres, par exemple, n'arbitrent plus vraiment pareil, les adversaires sont plus vraiment les mêmes, voilà, cette cage au lion, elle a changé. Et, mentalement, il faut réussir aussi à retrouver ses repères, parce qu'en compétition, tout va plus vite, donc du coup, voilà, c'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel aussi on doit, je pense qu'on peut encore progresser, ouais.
Et à 33 ans, Cécilia Berder vise désormais les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la maison, pour qui sait peut-être remporter une médaille sous les yeux de sa fille.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
Have you thought about us? Looking up at the stars, oh, through the nebula dust, I will find you, my love, oh. I need a light, a telescope, a compass to tell me when I'm close. Gravity help me to come home, home to you. Galileo, just a couple years. How do you taste? Lips of honey, heaven knows your name. I need a light, a telescope, a compass to tell me when I'm close. Gravity help me to come home, home to you. Galileo, Galilei, in a city far away, I'll be with you one day.
c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Christine, donc vous avez participé à cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu à nos auditeurs ?
Oui, alors donc je m'appelle Christine, j'ai 49 ans. J'habite dans le sud Gironde, donc à côté de Langon. Et je suis éducatrice canine suite à une reconversion professionnelle. Avant, j'étais gestionnaire d'un lycée dans la fonction publique. Voilà.
D'accord, très bien. Alors, est-ce que ça faisait longtemps que vous aviez envie de participer à cette émission d'aventure ?
Oui, exactement. Ça faisait très longtemps. Je suis donc assidue à cette belle émission d'aventure et j'avais envie de passer de l'autre côté, donc de l'autre côté de ce petit écran et de pouvoir vivre pleinement cette aventure.
Est-ce que vous aviez déjà candidaté avant d'être prise dans cette saison ? Est-ce que vous aviez déjà candidaté pour les autres saisons ?
Alors, en 20 ans, j'ai candidaté fin 2021. Pour la première fois, j'avais juste envoyé une lettre sans y croire vraiment. Et en 2022, j'ai tout fait pour aller jusqu'au bout de mon rêve. Voilà.
Alors... Oui, d'accord. Pardon. Pardon. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette émission ?
Alors, ce qui m'a motivée, c'est comme beaucoup de téléspectateurs, on s'imagine toujours faire mieux, vouloir y être et puis jamais franchir ce pas de dire allez, j'ai le courage finalement d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Je voulais pas avoir de regrets dans ma vie et de me dire oh, bah oui, j'aurais bien aimé, j'aurais dû. Donc c'est ça qui m'a motivée vraiment. Ouais. Et puis apprendre aussi à se connaître d'une autre façon parce que on se redécouvre hein, des facettes. On vit tellement un quotidien difficile que on est une autre personne.
C'était ma prochaine question puisque du coup j'ai vu votre portrait, un petit moment de votre portrait là sur MyTF1. Vous avez dit donc que vous vouliez le faire à fond pour pas avoir de regrets. Alors bien sûr, attention, hein, sans dévoiler quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut dire mission accomplie ? Est-ce que voilà vous aurez pas de regrets finalement ?
Alors bien sûr que je n'aurai pas de regrets puisque mon rêve est accompli. Mon rêve c'était de faire Koh-Lanta. J'ai fait Koh-Lanta. Voilà. Je fais partie des aventuriers et de la grande famille de Koh-Lanta maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a là aussi encore, hein, sans dévoiler quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui a été le plus dur ? Enfin, est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit si difficile d'être aventurier de Koh-Lanta, ou est-ce qu'au final ça s'est plutôt bien passé. On sait souvent que il y a le côté de la fin qui est assez compliqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus dur qu'un autre ?
Alors tout est un petit peu dur. Après, on n'est pas seul. Hein. On est 20 aventuriers, 20 dans cette galère. Bien sûr que la fin, c'est annouante, hein, jour et nuit. On pense qu'à ça, même si on se rend compte que le corps est quand même bien fait. Hein. Il arrive à survivre. Après, les conditions climatiques sont très très difficiles. Il peut pleuvoir torrent, faire très chaud. Il fait humide, la végétation est compliquée, les insectes, enfin voilà tout ça, et être à fond sur les épreuves, voilà toutes ces gestions là, il faut y être pour le comprendre vraiment.
Et est-ce que vous vous êtes préparé en amont avant d'arriver dans cette aventure ? Alors je sais que vous êtes quand même très très sportive, mais voilà, est-ce que mentalement vous vous êtes préparé ? Est-ce que vous avez suivi un coaching spécial, comment ça s'est passé pour vous ?
Alors, j'ai pas suivi de coaching spécial, j'ai continué à m'entraîner, oui, bien sûr, alors que ça soit de la course à pied, de la natation, où j'ai fait vraiment un peu plus de natation, de la salle. Après, sur le côté ludique, on réfléchit et puis on regarde certains jeux, on se souvient, on essaye de s'imaginer en quoi il faut être fort, donc bien sûr l'équilibre.
Carrefour. quand vous me dites
« Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protège-slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
C'est vraiment pour les personnes qui en ont besoin et je trouve que c'est essentiel.
Ce congé menstruel qui a déjà été mis en place dans d'autres pays.
Je sais qu'au Japon c'est quelque chose qui existe, mais c'est des congés qui sont pas payés, c'est-à-dire que c'est permis et du coup c'est bien parce qu'on en discute, mais je sais qu'au Japon c'est pas rémunéré. Après j'ai pas une situation globale sur tout ce qui se passe en Asie. Moi ce que j'avais lu c'est qu'en Afrique, pour le coup en Zambie, ça existe depuis 2015 et que là c'est un jour de congé. Alors c'est peut-être insuffisant, hein, mais c'est quand même bien plus que ce qui existe en France. En Zambie, en Afrique, depuis 2015, on a un jour de congé pour des raisons, enfin pour les de congé menstruel par mois qui est financé. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple aussi à donner.
Et justement, nous avons posé cette question à Clotilde. Où en est-on en France ?
Alors, on en est qu'il y a des petites initiatives à droite, à gauche, avec, je ne sais pas, par exemple, des salles de repos qui sont mises dans certaines structures, des jours de télétravail qui vont être accordés aux salariés. Donc, c'est vraiment des balbutiements, on va dire, et puis c'est pas du tout généralisé. Au planning familial de la Gironde, par contre, le congé menstruel, il a été mis en place. Hein. Et du coup, on a des salariés au planning familial qui peuvent tout à fait avoir des congés qui sont payés par la structure pendant qu'elles sont, quand elles ont des règles trop douloureuses, etc. Donc, où en est-on ? Je dirais que ça dépend des endroits, mais on est encore très très loin de faire en sorte que ce soit l'État qui finance ce congé.
La nuit sur 8FM, on passe des moments à écouter et découvrir des interviews que vous n'avez pas pu entendre. Bonne écoute.
Alors, je suis Karine Guérin, je suis élue en charge du sport, de la vie associative et de la jeunesse sur Saint-Médard-en-Jalles.
Très bien. Donc, vous allez accueillir des sportifs pour la préparation de ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer dans quel domaine vous allez les accueillir ?
Ben, en fait, ce sont les athlètes d'haltérophilie olympique et paralympique, surtout paralympique. Puisqu'on a la salle s'est dotée de matériel spécifique et on travaille en partenariat évidemment avec l'association d'haltérophilie de la salle qui est actuellement au COSEC à Saint-Médard.
C'est un travail d'équipe, hein, on le disait, vous êtes tous mis ensemble pour pouvoir faire rayonner finalement tous ces territoires en vue de ces JO.
Oui, en fait ce qui était important c'était qu'on arrive à travailler ensemble et comme vous le disiez justement faire rayonner ensemble sur tout le territoire. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup des Jeux Olympiques à Paris, mais on a beaucoup d'athlètes sur nos territoires, et notamment notre territoire girondin. Donc il était important, et je remercie vraiment Mathieu d'avoir mis en place cette cohésion et ce travail collectif, parce que ça nous a permis déjà de nous connaître, de travailler plus ensemble, et du coup, on fait beaucoup d'échanges entre ville maintenant et CPJ.
Et vous êtes, ça vous rend plus fort, finalement, d'être ensemble ?
Ensemble, on est plus fort. Ça, c'est toujours, ça, c'est d'actualité, et ça le sera toujours, mais effectivement, on est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus complémentaires. On travaille, quand on reçoit des délégations, là on en a reçu une il y a un mois de ça, on a vraiment travaillé en partenariat pour que ces délégations soient confortablement reçues et qu'elles soient heureuses et qu'elles ne s'arrêtent pas uniquement à une ville ou à un équipement sportif. Comme on le disait, il y a le bien-être, il y a l'accueil du sportif, il y a son bien-être, la culture, tout l'entourage, et en fait c'est ça qui est important, c'est que la complémentarité de tous les CPJ, de tous nos différents sites, on a une offre qui est assez extraordinaire au niveau de la Gironde, et ça, moi je suis assez fière de faire partie de ça.
Comment ça se passe pour en faire la promotion ? Parce qu'on a vu cette vidéo, on a vu cette plaquette, mais j'imagine que bon, c'est aussi un peu collectif, hein, mais vous, de votre côté, comment vous faites pour faire la promotion
de cette salle ? Oui, la promotion au niveau de la ville, en fait, on va essayer de faire en sorte, parce que c'est quand même, on est en 2023, c'est quand même l'année prochaine, on sait tous qu'il y a le rugby avant, et on accueille aussi, accueillir des équipes de rugby. Il ne faut pas tout mélanger, mais il faut quand même commencer à travailler. Moi, nous, au niveau de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, effectivement, on va essayer de travailler collectif pour faire en sorte que tout le monde interagisse, que ce soit les écoles, que ce soit les commerces, commerce, que ce soit les associations, puisqu'on a quand même plus de 600 associations sur Saint-Méda, on va essayer de créer un mouvement collectif et de mettre en place un système de planification, d'information, et puis de faire venir les gens quand les délégations seront là pour leur faire découvrir justement le monde. Non seulement le sport et la pratique de ce sport, mais également tout ce qui gravite autour. C'est important aussi d'impliquer tous les habitants et tous les Saint-Médardais, parce qu'effectivement, tous ne pourront pas aller assister à des jeux, à des matchs ou à des compétitions, parce que certains sont sur Paris, sur Lille, etc. Mais effectivement, de pouvoir approcher les sportifs, comme ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le donner et une accessibilité à tous.
Comment ça va, enfin, quel est l'intérêt pour vous, pour votre ville, d'accueillir comme ça des délégations sportives? Vous allez en retirer quoi?
En fait, on va en retirer que les gens vont pouvoir découvrir, nous notamment, le sport au niveau de l'haltérophilie, parce que c'est un sport qui est quand même très peu connu. On va pouvoir redonner une dynamique aussi au niveau de ce sport. Et puis aussi, ça permet aussi les gens, c'est une ouverture d'esprit sur des sports qu'ils ne connaissent pas ou qu'on ne pratique pas, qu'on ne pratiquera peut-être pas, mais qu'on ne regarde pas forcément non plus. Ça permet aux gens de pouvoir découvrir justement différents sports sur différentes communes. C'est ça qui est intéressant, et notamment à Saint-Médard. Au niveau de l'haltérophilie, c'est quand même un sport qui est quand même assez surprenant, et surtout au niveau paralympique, il est assez surprenant également. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire découvrir aux gens des nouveaux sports auxquels peut-être là aujourd'hui ne s'intéressent pas.
Est-ce que vous avez déjà des réponses de délégations internationales qui vont venir chez vous pour s'entraîner? Enfin, vous avez ça commence à arriver là, les candidatures?
Ça y est, ça commence à arriver. On commence à recevoir des demandes. On a déjà reçu une délégation là avec le CREPS il y a un mois de ça. Bon, on en a d'autres qui commencent à nous demander. On a une délégation anglaise qui commence à nous demander aussi nos disponibilités. Et on travaille aussi beaucoup avec la fédération, et la fédération d'haltérophilie aussi nous envoie des contacts. En fait, on travaille vraiment ensemble en synergie, c'est ça qui est important.
Une dernière question, on parlait aussi après de l'héritage de ces lieux, hein, parce que ça ne va pas servir que pour les jeux. Du coup, voilà, vous avez une vision sur le futur, sur l'utilisation de ces lieux?
Alors, en ce qui concerne Saint-Médard et la salle d'haltérophilie, effectivement, on travaille aussi en synergie avec les autres sports comme le foot, le rugby, l'athlétisme, qui viennent travailler tout ce qui est musculaire. Donc en fait, il y a déjà une synergie qui se met en place avec d'autres sports au niveau de la préparation, et donc du coup cet héritage, il va pouvoir se faire ainsi, mais sur d'autres sports, pas forcément que de l'haltérophilie. La salle va pouvoir accueillir aussi les scolaires, les vacances sportives. Du coup, on essaye de travailler sur cette dynamique là pour que justement ça reste pérenne.
Vous êtes au cœur de la nuit, et on se retrouve demain sur 8 FM pour passer un moment ensemble. À demain.
There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my knots, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Never mind, never mind. Feels like you are never mind. Go lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work. And it don't matter either way.
Trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau.